Bonjour, c'est Romaric Briand. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'audio d'un de mes lives enregistré sur Twitch le premier mardi du mois. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs livres, leurs jeux, leurs œuvres. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai été obligé de diviser ce live en plusieurs parties, ce qui était beaucoup trop dense, il y avait beaucoup trop de choses à dire. Donc là, vous êtes en train d'écouter la première partie du live, celle consacrée à mes news et à mes actus.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau stream. On est le premier mardi du mois. Et voilà, il est 21h, c'est l'heure de mon stream à partir de maintenant. Si vous avez suivi un petit peu le podcast de la cellule, vous le savez. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour F2 Prof, la voix de Benoît. Et bah oui, c'est la voix de Benoît Alman effectivement que vous venez d'entendre. Donc le doubleur de Kane dans Legacy of Kane. Le doubleur de plein de héros, de gargoyles, je ne sais plus tout ce qu'il a doublé cet homme-là, mais il a doublé plein de voix fantastiques. Balou aussi, de Super Balou, attention, ça envoie du lourd. Voilà, oui, effectivement, on a eu la chance pour la démo, en fait, de Sens. Enfin, c'était une vidéo à l'attention des maîtres du jeu de Sens, qui avait été faite pour eux, pour les aider à présenter tout simplement l'univers du jeu. Alors bienvenue Dasmas, bienvenue Monsieur Rick Pogan, très heureux, donc du coup si vous m'entendez bien c'est super cool. Bonsoir Taeldris, j'espère que j'écorche pas ton pseudo. Donc effectivement, comme vous avez pu l'entendre dans le podcast de la cellule, je vais essayer de pas trop rapprocher mon micro parce que j'ai noté que c'était à cause de ça que j'avais le son saturé la dernière fois. Salut Hugo, ça va la pêche ? Très heureux de te retrouver sur ce stream. Donc comme vous avez pu l'entendre sans doute si vous avez écouté les audios sur la cellule, à partir de maintenant, donc ces streams auront lieu tous les premiers mardis du mois à 21h. Comme ça, vous savez absolument quand me retrouver. Ce soir, je suis tout seul. C'est pas faute d'avoir invité quelques personnes. Malheureusement, elles ne pouvaient pas venir. J'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu ce soir. Notamment, je voulais être avec Lucille Tirard, qui était donc l'illustratrice qui nous a fait justement les logos que vous voyez là à l'écran, donc qui étaient des propositions qu'elle nous avait faites pour les logos du village. Et donc voilà, c'est justement ce dont je voulais parler avec vous ce soir. Tac, tac, tac. C'est de ce logo. Quelqu'un me dit que j'ai oublié de faire la promo du live sur Instagram. Ce n'est plus moi qui m'en occupe. Ce n'est plus moi exclusivement qui m'occupe de Instagram. J'ai quelqu'un qui m'aide en fait qui m'assiste en fait sur les réseaux sociaux. Et donc Instagram, je l'ai délégué à mon modérateur qui est donc Boudi, qui n'est pas là peut-être. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être qu'il a raté effectivement le stream. N'hésitez pas à en parler justement du coup sur Instagram, à partager ce stream sur les réseaux sociaux. C'est très important pour moi, c'est super important. Donc je m'organise rapidement. Alors oui, donc aujourd'hui il va y avoir principalement trois choses qu'on va faire ce soir ensemble. Pourquoi ça bip là ? On va tout d'abord faire un petit récap de toutes les actualités, de toutes les news que j'ai à vous transmettre. Puis ensuite, on reviendra sur mon stream de la dernière fois, mon stream avec Pierre Lagrange. J'ai reçu de votre part quelques questions, quelques interrogations. Je pense que Pierre a été très très clair dans ce stream et vous avez été nombreuses à me le dire. Ce qui peut-être a manqué de clarté, c'était les liens entre nos deux théories, éventuellement mes propres commentaires aussi sur son article. Donc, du coup, je vais revenir brièvement dans une deuxième partie là-dessus. Et puis, pour finir ce stream, je ferai une longue présentation d'un livre qui m'a énormément plu, que j'ai découvert donc la semaine dernière, donc qui s'appelle 5 têtes coupées. C'est un livre de Daniel Schneiderman. Comme vous le savez, j'ai lu tous les livres de Daniel Schneiderman. Je suis Daniel Schneiderman. Je suis fan de Daniel Schneiderman. Donc, du coup, je lis absolument tout ce qu'il produit et je suis fasciné à chaque fois par tout ce qu'il produit. Que ce soit lui d'ailleurs ou même c'est les journalistes qui travaillent sur Arrêt sur Image, qui, comme vous le savez, le site qu'il a fondé. J'aime beaucoup son travail et donc du coup, j'essaye de suivre régulièrement ce qu'il fait. Donc du coup, je vous en parlerai parce que vraiment, il y a plein de choses à dire, il y a plein de messages adressés, y compris à nous, fans de pop culture et de fantasy. Donc je pense que ça vaut un petit détour par nous. Alors, donc, qui est-ce qui a été enlevé par la mafia? Sans doute Boudy. Salut Darky, ça me fait plaisir de te retrouver là. Darky vient de me transmettre d'ailleurs une petite news qui m'avait échappé, c'est que apparemment les podcasts de la cellule sont archivés, en tout cas certains d'entre eux, je ne sais pas si tous le sont, mais sont archivés sur l'INA. Et donc du coup ça veut dire que vraisemblablement parmi les podcasts français, l'INA a jugé bon, a cru bon de conserver certains podcasts de la cellule. Alors je ne sais pas quelle est la politique de l'INA en la matière, s'il garde tout ou si c'est un honneur d'être conservé par l'INA, mais en tout cas ça fait plaisir de voir comme ça que les podcasts de la cellule survivront à travers cet organisme. Ah tiens, il y a quelqu'un qui vient de me suivre. Star Trek pour les nuls. Ah mais Star Trek pour les nuls, mais c'est mon ami Rémi. C'est formidable. Salut Rémi. Ça va la pêche, ça va, la pêche. Alors Rémi, donc c'est un, lui aussi, c'est un podcasteur. Monsieur Rick Pogan, merci beaucoup de me suivre également. C'est super de faire ce petit geste qui permet comme ça d'être informé immédiatement des streams. Alors, il faut que je m'organise un petit peu là, ça y est, je suis confus. J'essaye aussi de réagir à ce qui se passe sur le chat, évidemment. Et je débute en la matière. Alors voilà, vous découvrez la première actu, la première news, c'est le fameux, le superbe logo donc qui nous a été fait pour le village. Le village, je vous rappelle, il s'agit d'un jeu solo, un jeu de cartes, un jeu de réussite à la croisée des chemins entre le solitaire et le démineur, dans lequel donc vous allez tenter de sauver les villageois qui sont les 12 figures des cartes. Je ne reviens pas sur le village, vous avez eu un stream entier sur le sujet, à savoir le tout premier stream de cette chaîne qui parlait de ce jeu, de ce solitaire, de ce jeu solo. Il nous avait été fait comme remarque que le village, l'application du village et le logo du village avaient été générés par une IA. Et c'était absolument vrai. Darky et moi-même avions utilisé cette image générée pour l'application lors de son développement. Et puis, au fur et à mesure que les playtests à travers l'application se faisaient, parce qu'avant que l'application ne sorte là à la rentrée de septembre 2023, on avait fait de nombreux playtests. Et du coup, on s'est habitué avec Darky à voir cette image, cette image qui avait été générée par une IA. Et quand l'application est sortie, on n'avait pas du tout fait attention au fait que c'était généré par une IA. En fait, on a sorti l'application bêtement, on avait tellement vu cette image générée qu'en fait, quelque part, elle est rentrée dans notre champ inconsciemment. On l'a complètement oubliée. Et parce que, justement, elle s'était banalisée, on s'y était habitué. On verra qu'on reparlera des oublis et des choses inconscientes qu'on oublie parce qu'on les banalise dans la troisième partie de cette émission. C'est une autre histoire. Donc bref, on avait oublié que c'était une image générée par les IA complètement avec Darky, on avait complètement zappé ça. Et à la sortie de l'application, évidemment, bah, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, perspicaces, vous avez tout de suite remarqué que c'était une IA, et donc vous nous êtes tombé dessus en disant « Mais attendez, romaricbrillant.fr, vous nous aviez quand même promis que les IA ne seraient utilisées que pour CETRA, parce que ça avait du sens dans le cadre des propos défendus par le jeu CETRA, le wargame de rôle CETRA, mais par contre, on ne pensait pas que la cellule, que romaricbrillant.fr utiliserait des images générées par des IA pour illustrer ces jeux. » Et vous avez parfaitement raison. Moi, je m'engage absolument à ce que aucune version générée par les IA, on va dire par mes soins ou ne soit présente sur mes jeux. Alors pourquoi je précise par mes soins? Parce qu'évidemment, si un artiste que j'emploie, que je paye, qui est donc un illustrateur compétent, avec des compétences en art, en graphisme, en ce que vous voulez, utilise des images générées et que je le paye pour ça, etc., ça ne me dérange pas. Je veux dire, je ne suis pas contre le fait que des artistes utilisent des IA. Je suis contre le fait que des Pékins qui n'y connaissent rien en illustration, comme moi par exemple, utilisent des IA dans le cadre de jeux pour éviter d'avoir à payer un illustrateur ou une illustratrice. Ça me révolte. Or, là, avec l'application du village, eh bien, c'était le cas concrètement. Une IA, enfin, un des deux Pékins, Darky et moi-même, avions généré une image comme ça, rapidos, et on l'avait publiée, et ça nous évitait de devoir payer un illustrateur ou une illustratrice. Ça, c'est scandaleux. Et donc, du coup, vous avez eu raison de nous reprendre là-dessus. Et donc, on a repris complètement les applications, les logos, et on les a remplacés par cette illustration que vous voyez ici à l'écran, si je ne m'abuse. Oui, vous la voyez, c'est très bien. Cette illustration, donc, qui a été faite par Lucille Tirard, je vous rappelle son nom. Et évidemment, Lucille s'est inspirée, comme vous pouvez le constater, du logo original. Hein, c'était une demande de notre part, parce qu'on s'y était habitué finalement à cette illustration. Et donc, on lui a demandé de s'inspirer de l'image que nous avions générée de façon un peu accidentelle pour faire ce nouveau logo. Mais ce nouveau logo a été entièrement conçu par une artiste, une designeuse qui travaille pour Blizzard Entertainment, si vous voulez tout savoir, voilà, qui est une directrice artistique qui design des objets apparemment dans l'univers de World of Warcraft. J'en sais pas plus. Elle aurait dû être là avec nous pour répondre à toutes mes questions. J'avais prévu éventuellement de faire une interview avec elle. On verra peut-être plus tard, on refera ça. Et il se trouve que là, ce soir, elle a une réunion. Parce que Lucille travaille la nuit, évidemment, à cause des décalages horaires et tout ça. Je pense que c'est pour ça qu'elle a souvent des réunions la nuit, puisqu'elle travaille pour Blizzard, encore une fois. Donc voilà, donc elle nous a gentiment proposé cette image que nous avons acceptée. Alors vous avez vu qu'elle nous avait fait différentes propositions sur la base. Ici, c'est des propositions qu'elle m'avait envoyées rapidos par mail. Donc la qualité, évidemment, elle avait fait ça très rapidement. Et donc ensuite, après avoir discuté avec elle, eh bien ma foi, hop, tac, on a eu donc le droit à cette nouvelle icône. Alors, vous avez peut-être constaté, si vous êtes utilisateur de l'application, que parfois l'ancienne image réapparaît. C'est totalement normal. Il va falloir un peu de temps, parce que l'image, le nouveau logo a été publié la semaine dernière. Il va falloir un petit peu de temps pour que les caches des divers sites se rafraîchissent, pour que les pages des divers serveurs qui donnent ces applications se rafraîchissent. Vous-même d'ailleurs, il va peut-être falloir, si vous voulez bénéficier de cette nouvelle icône, que vous supprimiez votre cache. Et ça, le problème, c'est que ça risque de virer toutes vos parties du village. Mais étant donné que jusque-là, vous les aviez toutes ratées, que vous n'êtes pas encore satisfait et que vous voulez encore améliorer vos stats, c'est peut-être aussi l'occasion d'une remise à zéro et de commencer comme ça le village avec votre skill incroyable. Donc voilà. Je regarde rapidement le stream. Oui, effectivement, tu n'avais pas remarqué, Rémi, qu'il s'agissait d'une version IA, mais effectivement, maintenant que tu le sais, ça te saute à la tronche. On voit qu'effectivement, le carreau, le trèfle, les différents symboles qui représentent les cartes ne sont pas bien représentés. Donc voilà, c'était la première actualité que je voulais partager avec vous. C'était évidemment la création de ce logo. Et donc voilà. Je respecte ainsi mes engagements, mon engagement qui était de ne pas utiliser moi-même des IA sans payer un illustrateur, sans quoi que ce soit. À partir de maintenant, sachez que tous les prochains jeux qui vont sortir sur ma boutique et sur mon site ont été faits par une illustratrice. Et on reviendra même dans mon prochain jeu à l'origine, si j'ose dire, du dessin, puisque tous les dessins seront faits carrément sur du papier, sans outils, sans presque aucun outil numérique. On vous racontera tout ça plus tard. Donc voilà. Première actu que je devais vous présenter. On passe à la suite. Alors la suite c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça c'est un tableau. Un tableau, chers amis. Donc vous voyez là à l'écran, je vérifie, un tableau qui représente le chiffre d'affaires de romaricbriand.fr. Et alors là, donc vous avez une ligne qui pour chaque année en réalité, une ligne pour l'année 2021, une ligne pour l'année 2022 et une ligne pour l'année 2023. Ces chiffres sont publics, vous pouvez les retrouver sur tous les sites qui référencent les entreprises françaises. Et voilà, vous constatez que ça dégringole. Alors je vais, puisque ces podcasts, ces émissions, ces streams sont également suivis par des gens qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas, je vais décrire, à chaque fois que je vais présenter une image, je vais tenter de la décrire pour que les auditeurs, auditrices qui nous écoutent uniquement, qui ne voient pas les images, puissent profiter de ce stream. Alors effectivement, vous avez un tableau qui représente mes chiffres d'affaires. Et comme on le dit dans le chat, eh bien vous constatez que ça dégringole violemment. Donc pour le premier trimestre 2021, mon chiffre d'affaires était de 3241 €. Pour le deuxième trimestre de cette même année, en 2021, de 3369. Pour le troisième trimestre, 1461. Pour le quatrième, 1115. En 2022, on avait un chiffre d'affaires environ de 2000 € pour le premier trimestre, puis 2500 environ pour le deuxième, puis pour aller jusqu'à 1000 à la fin de l'année. Et cette année 2023 commence bien mal, puisqu'on voit que mon premier trimestre est donc autour de 800 €, à 785 €. Mon deuxième à 699. Mon troisième remonte un peu, on a un petit sursaut à 1034 €. Et mon dernier trimestre à 674 €. Alors vous le savez, car vous me suivez depuis longtemps, l'indépendance c'est aussi la transparence. Et donc du coup, je vous publie mes chiffres ici. Ce stream permet de le faire. Je ne pouvais pas faire ça avec des auditeurs. Alors, effectivement, vous avez tous noté qu'il s'agit là d'un chiffre d'affaires. Et vous me faites remarquer dans le chat, monsieur Rick Pogan, que ce sont des chiffres d'affaires. Ça veut dire que les impôts ne sont pas encore passés. Effectivement, il faut compter à chaque fois les impôts qui ponctionnent encore sur ce chiffre d'affaires. Et puis, une dernière chose, le chiffre d'affaires ne tient pas compte, bien entendu, des coûts d'impression des documents ou des livres ou des jeux qui sont vendus. Donc ça veut dire que ce chiffre d'affaires, donc je rappelle que romaricbriand.fr est une entreprise personnelle, donc une auto-entreprise, donc je suis le seul bénéficiaire des marges de romaricbriand.fr, donc je suis c'est un peu mon salaire que vous voyez là. En fait non, c'est pas mon salaire, c'est le chiffre d'affaires de mon entreprise. C'est-à-dire qu'une fois que par exemple au premier trimestre 2021, j'avais fait 3241 de chiffre d'affaires. Il reste encore à soustraire les coûts liés à l'envoi des documents, parce qu'il faut savoir que le chiffre d'affaires compte aussi quand je vous facture par exemple 32 € pour Sens Renaissance, sachant que le livre est vendu 25 € et qu'il y a 7 € de frais de port, eh bien mon chiffre d'affaires est de 32 €. Donc ça veut dire que les frais de port, le coût d'impression du livre, tout ça, ça va pas dans ma poche. Donc autant vous dire que en ce moment, je vis très très mal mon entreprise, et comme vous l'avez remarqué, vous voyez que les chiffres, en fait, j'ai commencé à 3241 € de chiffre d'affaires en 2021 et je suis aujourd'hui à 674, et entre ces deux chiffres, c'est-à-dire que sur 3 ans, la baisse a été continue. Et donc, je vous avais annoncé que les actualités seraient pas forcément bonnes, que j'avais des mauvaises nouvelles à vous annoncer. La première mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que ben, ça va mal. Ça va très très mal. Si on regarde ces chiffres, en fait, vous vous rendez compte, 674 € sur un trimestre. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour moi, ce que ça veut dire. Donc, les chiffres d'affaires qui sont signalés là, ce sont les chiffres d'affaires de vente de marchandises. Je précise quand même que le Patreon n'est pas compté dans ces chiffres-là. Donc, si par exemple, j'ai fait au dernier trimestre, par exemple, de cette année, j'ai gagné 674 € de vente de marchandises. Donc, mais tous les mois, grâce à vous, grâce à votre soutien, Patreon Patreon, j'ai gagné environ en plus de ça 230 euros par mois. Donc, ça va, je veux dire, j'ai pu vivre en fait avec, on va dire, environ 300 euros par mois pendant le dernier trimestre de l'année 2023. Alors voilà, vous voyez que là, en fait, autant en 2021 avec 3000, entre 3000 euros et 1500 euros de chiffre d'affaires trimestriel, je pouvais décemment vivre de mon travail. Autant là, avec les chiffres qui sont les miens actuellement, eh bien, ça devient très compliqué. Et je ne vous ai pas publié les chiffres de l'année 2020, mais ils étaient meilleurs que ceux de l'année 2021. C'est-à-dire que je pars d'un petit peu plus haut encore, environ 4000 euros, on va dire, à peu près. Donc, en fait, c'est la dégringolade complète. Et j'avoue que ça devient très difficile, ça devient très très difficile. Alors, je vois que vous avez commencé à rentrer dans des tentatives, dans le chat, des tentatives d'explication. On a prof, F2 prof qui nous dit que j'ai sorti beaucoup de jeux gratuits et que c'est tout à mon honneur, mais que ça ne met pas du beurre dans les épinards. Eh bien, effectivement, j'ai tenté. Je me suis dit, après Sens, je me suis dit, allez, Sens a été un succès. Leval a été un gros succès, un très gros succès, puisque les ventes ont même dépassé celles de Sens. Je me suis dit, allez, je vais tenter de changer de modèle économique. Je vais proposer mes jeux gratuitement et je vais inviter les gens à se placer sur mon Patreon. C'est-à-dire, je vais dire, bah voilà, mes jeux seront gratuits, en PDF, je distribuerai comme ça mes jeux plus facilement, ils seront plus accessibles. Je pensais aussi faire un peu plaisir au lobby du PDF qui existe dans le monde du jeu de rôle. Malheureusement, ce dit lobby n'a pas suivi cela. Et donc, du coup, en fait, bah, vous n'avez pas suivi. Alors, je ne dis pas vous personnellement dans le chat, mais clairement, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai juste perdu, en fait, du chiffre d'affaires de façon radicale. Le contrat qui consistait à dire, bah voilà, mes jeux sont plus accessibles, ils sont en print and play. Donc, je vous rappelle, hein, les jeux en print and play, je peux les nommer, hein, il y a Loli Rock, donc le jeu qui avait été fait pour Suzanne. Ex Nihilo, bien sûr, qui a été publié gratuitement avec encouragement à me financer sur Patreon. Il y a eu, bien sûr, Donjons et Domino, dont la plupart, on va dire, le matériel n'était pas cher, mais ce qui prend énormément de temps, évidemment, ce sont les scénarios additionnels. Et donc là, pareil, le jeu... Bon, le jeu rapportait un petit peu parce qu'il coûtait vraiment pas cher à produire, donc il a quand même dégagé une petite marge, mais il était vendu vraiment pas cher, donc du coup pas beaucoup quoi. Et enfin, le dernier, c'est que j'oublie, bah, c'est bien sûr c'est Cetra. Et Cetra, c'est un échec complet. Il faut le dire, c'est un ratage monumental, Cetra. Il y a une seule table de Cetra aujourd'hui. À l'heure actuelle, alors nous parlons. Alors, au début de la création du jeu, il y en avait plusieurs. Il y en avait deux ou trois. Mais ce sont des gens qui ont playtesté le jeu. Je ne sais pas s'ils ont continué à jouer. À vrai dire, je n'ai pas de nouvelles. Peut-être qu'ils continuent, mais j'en doute. Sinon, j'aurais des nouvelles, je pense. Donc, ces tables, on peut les nommer. Il y avait une table qui a été organisée par Mathieu Mine, que vous connaissez, hein, qui est l'auteur de L'Horloge du Diable, qui joue d'ailleurs avec Alex, qui est le co-auteur de L'Horloge du Diable. Et puis, la deuxième table, c'est celle qui est faite par la Citadelle d'Antoine Foin, donc qui playteste absolument tous mes jeux. Et donc, du coup, qui sont à l'heure actuelle en train d'enregistrer des podcasts, de faire la campagne. Par contre, alors pour le coup, eux, ils font tous les scénarios. C'était pas spécialement prévu par le jeu, mais eux, ils font tout. Mais du coup, voilà, c'est clair que Cetra, il y a personne qui y joue. Et donc, du coup, ben, c'est un. Là, je dois présenter le bilan. J'en suis là, honnêtement. C'est-à-dire que si je fais une autre année comme celle qui vient de s'écouler, juste une autre année comme ça, je devrais arrêter complètement, c'est-à-dire fermer boutique. Clairement, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est pas du tout l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de l'indépendance et tout ça. L'objectif quand même de l'indépendance, c'était de réussir à de vivre de son travail, de que l'auteur puisse vivre de son travail. Donc, si je fais d'autres trimestres comme ça, ma foi, bah, je devrais concrètement arrêter, ça veut dire fermer la cellule, ça veut dire arrêter ses streams, ça veut dire concrètement ne plus publier de jeux. Alors, je vous dis ça en même temps, voilà, vous me connaissez, vous savez que je suis prolixe, que j'aime bien parler, que j'aime pas me taire, que j'ai, comment dire, j'ai encore des idées de jeux, évidemment, que je ne peux pas m'arrêter de faire des jeux, c'est dans ma nature. Donc vous vous doutez bien que je vais pas arrêter comme ça. Mais par contre, ce qui va s'arrêter, c'est l'indépendance, c'est-à-dire que c'est cette espèce d'idée que je vivrai de ce, je puisse vivre de ce travail, je puisse être professionnel du jeu de rôle. C'est ça qui est aujourd'hui menacé. Alors, vous, j'ai envie de dire, vous vous en foutez complètement. C'est pas votre problème, si j'ose dire, que l'indépendance d'un auteur puisse fonctionner ou pas. C'est comment dire? C'est un modèle économique qui est en jeu concrètement. On pourrait trouver d'autres moyens, j'imagine, de produire ces jeux. On a d'autres exemples. On a des exemples, par exemple, de gens comme Fabien Ilvine. Fabien Ilvine, pendant toute la phase de créatif, où il a été créatif en matière de jeux de rôle, bon, maintenant il s'est arrêté depuis le décès de Frédéric Sintès de produire des jeux, etc. Mais quand il a été productif, il travaillait à côté. Il avait un emploi. Il l'a toujours d'ailleurs. Il était professeur. Il est professeur. À côté. De la même manière, Adrien Cahuzac, qui continue à produire des jeux, lui aussi, il est ingénieur. Natacha Forel, que vous avez vu au cours des streams précédents, au cours du deuxième stream, donc l'autrice du Rosaire Écarlate, a également un métier à côté. Donc, ce qui s'arrête, ce qui est menacé ici, ce n'est pas tellement le fait de produire des jeux pour moi, ou c'est pas un enjeu existentiel, c'est juste un modèle, celui de l'indépendance. C'est-à-dire que là, concrètement, si ça s'arrête, moi, bah, l'expérience que j'aurai de l'indépendance, c'est que ça marche pas. Voilà. Donc je me serais battu pendant donc depuis 2008, hein, je me serais battu pendant 16 ans ou 17 ans pour un modèle économique complètement foireux. Alors il aura quand même marché pendant quelques années, donc foireux à foireux et demi. Mais quand même, il faudra en faire le bilan. Alors évidemment, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était foireux. Il y a des gens comme Sylvie, Guillaume et Beclet et Christophe Guillaume Beclet qui avaient dit que c'était foireux. Il y avait Thomas Munier aussi qui m'avait prévenu, qui m'avait dit que concrètement, quand il faisait des PDF comme ça gratuitement et qu'il proposait à côté de ça aux gens de financer son parcours, ça fonctionnait pas très bien, et effectivement j'ai pu l'expérimenter par moi-même. Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que proposer quelque chose, un PDF en échange d'un soutien sur Patreon, ça ne fonctionne pas. Alors il y a quelqu'un qui me dit on peut dire que ça marche plutôt que ça marche pas. Les podcasts n'ont pas suffi à promouvoir Cetra. Non, la série de vidéos n'a pas suffi à promouvoir Cetra. Ça n'a pas été suffisant apparemment parce que l'engagement que le jeu propose est trop important. Donc voilà. Alors, on a commencé gentiment à rentrer dans les explications. Le gratuit, me dit-on, est souvent dédaigné, le fameux prix psychologique. Effectivement, c'est quelque chose qui est bien connu par ces gens qui distribuent des tracts. Si vous donnez un tract à la sortie du métro, il est jeté à la poubelle. Si vous faites payer un journal engagé ou militant, même à 20 centimes, ça suffit à ce que les personnes les conservent. Donc, c'est quelque chose qui a été observé dans les milieux militants. En tout cas, moi, c'est dans les milieux militants que j'ai pu faire cette expérience du tract versus le petit fascicule, même un peu payant. Voilà. Donc effectivement, hein, donc vous avez bien vu que c'est cette promesse PDF contre Patreon, bah, ça n'a pas fonctionné. Et c'est marrant parce que Thomas Munier m'en parlait de la sorte. Il disait voilà, quelque part, quand il a constaté en fait cet échec, il m'a dit les gens ont voté. Les gens ont voté. C'est-à-dire que quelque part, bah, c'est les gens qui me suivent qui ont fait ce choix de finalement dire bah non en fait. On préfère, plutôt que tu nous fasses des trucs téléchargeables en PDF et qu'on te soutienne sur Patreon, franchement, on préfère que tu nous produises un beau truc, qu'on achète, qu'on garde chez nous, et même si c'est un peu plus cher, eh bien on préfère ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est que je pense que les gens, malgré tout, restent attachés à... Autant déjà que ça coûte d'imprimer les choses chez soi, de faire ses propres figurines, ses propres machins, ça prend du temps. Je pense que les gens n'avaient pas envie de ça. Petit 1. Petit 2, je pense que les gens sont encore attachés au livre, à la matière, à ce contact physique, etc. Donc moi en tout cas, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut que je refasse des objets physiques. Il faut que je me remette en fait à faire du physique. On me pose des tas de questions, je réponds. Au final, est-ce que ce n'est pas juste la com qui n'a pas fonctionné? Au final, peut-être qu'en kickstartant ces projets, ils auraient bien mieux fonctionné. C'est plus l'approche que le jeu en soi qui est boudé. Alors, c'est une possibilité. Ça fait partie des explications que j'avais notées. Effectivement, on veut dire de la couverture en cuir et du beau papier. Alors, non. Un bel objet, évidemment. Je ne veux pas retomber dans cette histoire de fétichisme de l'objet et vous faire des objets... extrêmement coûteux, parce que le problème de faire des très très beaux objets, c'est que après ça met aussi l'auteur, ça met aussi le producteur de l'objet sur la paille. Donc non, je ne vais pas tomber dans ce piège là. Je reprends le fil, qu'est-ce que je disais? Oui, effectivement, alors c'est ce que... On me parle de Kickstarter, on me parle de choses comme ça. On me parle aussi de réseaux sociaux. Effectivement, c'est une des choses que j'avais notées, c'est que je trouve, à titre personnel, que en réalité, je ne suis plus en phase avec mon temps. Et je pense que ça rejoint vos remarques d'Asmask avec ce qu'il me dit. Il dit que c'est beaucoup plus un échec en communication, en marketing, qu'un échec sur le fond. Les jeux sont ouf. Trip to Sky devrait être un best-seller. Ex Nihilo, c'est tellement du poulet. Merci beaucoup d'Asmask pour ce commentaire. Ça, c'est ce que tu penses. Le problème étant que je suis indépendant d'Asmask et donc c'est aussi à moi de faire la communication et le marketing. En tant qu'indépendant, je dois à la fois faire des jeux que tu dis ouf, etc. et en même temps faire de la communication. Et à vrai dire, je préfère passer du temps à faire des jeux qu'à faire de la com. Donc effectivement, je plaide coupable. Peut-être que c'est un échec de marketing et de communication. Mais force est de constater, Dasmas, que je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Et le principe de l'indépendance, c'est que l'indépendant est censé être capable de tout faire. Donc s'il y a quelque chose qui pêche, hein, effectivement, peut-être cette phase de communication et tout ça, eh bien, ma foi, j'en suis responsable aussi. Alors effectivement, ça peut être une explication parfaitement jouable. Je suis peut-être incapable de faire ma com, peut-être que effectivement, je ne suis pas capable de vendre ces jeux comme il le faudrait, etc. J'assume pleinement, hein, c'est un échec. Après, je cherche des explications, je cherche des remèdes, etc. Mais voilà. Donc effectivement, c'est une explication, c'est que je fais mal ma com. Et ça, à mon avis, c'est parce que je ne suis plus en phase avec mon temps. Je suis vieux, il faut le dire. Et Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles tendances, ça bouge tellement rapidement, mais tellement rapidement. Regardez, depuis que la cellule existe, on est passé par Facebook, par Twitter. Twitter qui se casse la gueule, qui devient X. Il y a eu des MySpace, il y a eu qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu plein de trucs. Maintenant, c'est TikTok. Là, il y a Twitch. Il y a eu YouTube, bien sûr. Instagram. Là, maintenant, ça continue à changer. Les nouvelles tendances dans le JDR. Tu peux préciser un peu, Dasma, ce que tu veux dire parce que là, nouvelles tendances dans le JDR, j'en vois pas trop. Le jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, Dasma. Hein. C'est toujours Donjons et Dragons. Ça n'a pas changé. Allô ? Allô ? Donc voilà, l'actual play, très bien. Monsieur Rick Pogan me signale qu'il y a aussi des actual play maintenant qu'on fait ça. Mais vous imaginez pour un indépendant la charge que ça peut représenter, la com. Ça veut dire qu'en gros, j'arrête de faire des jeux. Si je vous suis, si on fait que j'arrête de faire des jeux et je me consacre à 100% à la communication. Et en fait, mais c'est juste pas possible. En plus, la communication, ça suppose aussi une certaine forme d'organisation. Je suis à Saint-Malo. Rappel, je suis à Saint-Malo. J'ai deux enfants, Je peux pas toujours inviter du monde pour faire des actual plays, organiser des grandes sessions incroyables de podcasts de la cellule, etc. Il y a aussi un moment donné où, je veux dire, il faut être aussi, c'est-à-dire vivre avec son temps, mais son temps personnel. C'est-à-dire que là aujourd'hui, vu ma vie de famille, je n'ai pas, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, le temps de tout donner à mon entreprise. C'est l'inverse en fait. Je suis en train de tout donner à ma famille en ce moment. Je passe mon temps à faire du linge, à faire le ménage, à faire de la vaisselle. Et en fait, je ne suis pas du tout dans la communication. Je ne peux pas passer mon temps sur les réseaux sociaux et j'en ai pas envie en plus. Voilà, donc il y a tout ça. Donc évidemment, là aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne suis plus en phase avec mon temps, que ce soit à mon avis mon temps parce que je suis trop vieux. Et ça, je peux le démontrer. Par exemple, si je prends par exemple les jeux que je développe, ils font référence à Final Fantasy, ils font référence à Secret of Mana, ils font référence à Escaflowne, ils font référence à des œuvres et des fictions, des mangas, les Chevaliers Zodiaques, des trucs qui datent des années 80. Et je veux dire, je ne suis plus du tout en phase avec ce que aujourd'hui les jeunes de 21 ans, parce que je vous rappelle que le rôliste, c'est un jeune adulte, hein, c'est quelqu'un qui est souvent à la faculté, hein, c'est la lectrice a entre 18 et 26 ans à peu près. Je dis bien la lectrice, hein, parce qu'il n'y a que les femmes qui lisent des livres aujourd'hui. Dixit, légende d'Actu SF, qui, dans la phase où ils ont fait faillite, avait fait une interview à C'est plus que de la SF que je vous invite à écouter, dans laquelle ils expliquent clairement, hein, que la lectrice de science-fiction a entre 18 et 26 ans. Or, moi, c'est 18-26 ans, mais laissez tomber. Je suis hors phase. Je suis hors phase. Je ne sais plus en fait ce que font ces gens. Donc je me sens vieux et dépassé. Voilà. Alors après, Dasmas dit, tu te dis vieux et dépassé, mais les tendances dans le jeu de rôle sont toujours les mêmes depuis des décennies. C'est vrai, peut-être que mes systèmes ne sont pas dépassés, mais ma manière de faire du jeu de rôle, par exemple, est dépassée. Je t'en donne un exemple, Dasmas. Aujourd'hui, la plupart des gens ne jouent pas en présentiel. Il joue en distanciel, il joue en virtuel. Alors je sais que toi et la Citadelle, vous faites exception en la matière. Mais néanmoins, c'est quand même une tendance forte dans le monde du jeu de rôle indépendant, donc qui est le marché sur lequel je me suis positionné. Je dis marché entre guillemets, bien entendu, vous savez que j'aime pas trop parler des gens comme ça. Mais voilà, c'est ce secteur. Sur lequel moi je travaille, que j'ai par ailleurs à l'aide de la cellule que nous avons à l'aide des premiers auteurs indépendants de Silent Drift, notamment en francophonie, contribué à créer ce secteur, pardon, ce milieu, ce monde, je ne sais pas comment l'appeler, ces gens aujourd'hui, eh bien, ils font quoi? Ils font du virtuel pour la plupart. Ils font du virtuel. Et pas plus tard que là, en février, au milieu du mois, je ferai un jeu de rôle virtuel avec des gens du monde du jeu de rôle indépendant. Je dis pas encore quoi, ni où, ni comment, mais il s'agira d'aider un Kickstarter, à ce que j'ai compris. Mais voilà, donc clairement, je veux dire, c'est comme ça. Aujourd'hui, si on regarde par exemple le jeu que nous avons testé. Pas Sweet Agatha. Ah mince, son nom m'échappe. On a testé avec toi, Dasmask. Comment ça s'appelle? Le jeu où on joue en ligne, là, sur le Discord, et on cherche une fille qui a disparu. Alice is missing! Merci, Rick Pogan. Super. Donc voilà, c'est ça. Donc tu voyais, ce genre de jeu, ce genre de projet, en fait, est développé sur des plateformes virtuelles. Et donc aujourd'hui, je pense qu'aussi, il y a aussi ce côté que moi, j'ai fait du jeu de rôle pour jouer en présentiel, pas pour jouer en virtuel. Donc là aussi, je pense que je suis en train de rater mon époque. Donc voilà. Mes jeux aussi sont trop compliqués. Quand je vais sur les salons présenter mes jeux, les gens me le disent, les règles sont trop compliquées, c'est tordu, c'est. Voilà, c'est fait pour être présenté. En physique, en fait, et surtout c'est fait pour être présenté longuement. C'est des jeux qui nécessitent d'avoir beaucoup de temps. C'est des jeux qui nécessitent d'avoir peut-être 4 ou 5 heures devant soi. Non, Trip to Sky, je vois dans le chat que ça réagit. Non, Trip to Sky, effectivement, n'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Mais ça reste. On compare vite fait à des dessins. Non, mais arrêtez, arrêtez. Non, mais ça reste des jeux qui sont plus compliqués que les jeux mainstream qui sont vendus aujourd'hui. Si on prend, par exemple, il y en a qui disent que c'est très intimidant, je le reconnais dans le chat. Merci, Rick Pogan. Effectivement, mes jeux restent intimement. Si on prend par exemple des jeux comme Pour la Reine, qui sont donc des jeux phares du milieu indépendant actuel, merci beaucoup à Qui c'est qui me soutient et se pose? À Shine 42, Chine, ça se dit peut-être Chine 42. Merci à toi de me suivre. Donc, si on prend par exemple des jeux comme Pour la Reine, c'est des jeux très simples. On retourne des cartes. C'est très simple, les gars. C'est très simple, les gars, les filles. C'est facile, en fait, à jouer. Ce n'est pas le cas d'un jeu comme Cetra. Ce n'est pas le cas d'un jeu comme Trip to Sky. L'heure est à la simplicité du discours et des règles. Mais très simple, voire même simpliste. Et ça, je le regrette, mais c'est la vérité. Donc, du coup, là aussi, à mon avis, peut-être, de ma part, une remise en question à faire. Alors après, vous allez me dire, bah ouais, mais pourtant, avec Donjons et Dominos, j'ai voulu faire des trucs simples. Le village, c'est quelque chose de simple. Eh bien, oui, et figurez-vous qu'on va en reparler après, mais que ça a déjà porté ses fruits d'un certain point de vue. Alors, donc, j'avais dit, donc, plus en phase avec mon temps, et également, aussi, je pense qu'une explication de ma baisse de chiffre d'affaires et ma baisse d'audience, tout simplement, et j'ai moins suivi, moins, voilà, et ça, je le sais, hein. Et n'allez pas me dire, non, mais tu sais pas, il y a des gens qui t'écoutent, machin, non, non, je le constate, ne serait-ce que par le nombre de mails que je reçois, habituellement, avec, soit à travers la cellule, mes streams et compagnie, vous êtes nombreuses à m'envoyer des mails, à réagir au podcast, etc. Là, je vois qu'à chaque fois que je postais un podcast cette année et les années précédentes, sur les 3-4 dernières années précédentes, il y avait nettement moins de réactions. Je pense qu'on a perdu des auditeurs, on a perdu de l'audimat et du coup, j'ai également perdu des lecteurs, des lectrices. C'est sûr et certain. J'ai tout un tas d'indicateurs qui le montrent, donc les mails, les audiences, les chiffres d'affaires hein, qui ne mentent pas, la quantité de personnes qui me parlent de mes jeux, la quantité de personnes qui viennent m'envoyer des mails sur mes jeux, donc c'est sûr et certain qu'il y a une grosse baisse de la fréquentation. Il y a beaucoup de mails que j'ai pas envoyés par crainte de déranger. J'aurais pas dû. Ouais. N'hésitez pas. Après, c'est vrai que j'ai pas toujours eu le temps de répondre à mes mails ces dernières années parce que voilà, j'ai des enfants. Enfin, c'est parfois un peu compliqué. Mais voilà. Donc en tout cas, clairement. De la baisse. Alors, aussi lié sans doute à la diversification de mes activités. Quelque chose qui m'a marqué, c'est ce que m'a dit Guillaume Vendée quand j'ai fait l'interview avec lui pour Tech Café. Il m'a dit que c'était extrêmement difficile maintenant de me suivre. Me suivre au sens de... De me suivre au sens de suivre mon raisonnement, de comprendre en fait pourquoi je parle de tel ou tel sujet. Regardez ce soir par exemple. Ce soir on va parler de Pierre Lagrange, on va parler de Daniel Schneiderman, et c'est une chaîne dans laquelle je suis censé présenter mes jeux et parler de jeux de rôle. Et c'est vrai que sur le coup on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne Twitch, ça ressemble à rien. Les gens qui viennent pour écouter du Daniel Schneiderman, ils sont déjà repartis là à l'heure qu'il est. S'ils ont atterri par hasard sur ce Twitch, ils sont déjà repartis. Daniel a eu la gentillesse de retweeter l'annonce de ce Twitch. Si ça se trouve, il y a des gens qui viennent d'Arrêt sur Image qui sont en train de nous écouter, mais ils sont déjà repartis, ils comprennent rien à ce qu'on est en train de se raconter là. De la même manière, vous, quand je vais vous parler de Daniel Schneiderman, vous allez dire, bon bah c'est bon, là il a fini sa revue de jeu de rôle, moi j'étais là pour savoir ce qui allait se passer du point de vue jeu de rôle, bah je me casse quoi, je m'en fous de Daniel Schneiderman. Et en fait, c'est ça le problème. Le problème, dans le lore de Romaric, c'est cohérent mais faut suivre, dit F de prof. Effectivement, c'est ça le problème, c'est de comprendre en fait la cohérence en fait de ce travail-là. Et pour la résumer simplement, je dirais que la cohérence, elle est simple. C'est que je suis un philosophe, un métaphysicien, qui s'est égaré dans le jeu de rôle, et pas l'inverse. Rappelez-vous qu'à l'origine, c'est pour développer une idée philosophique, pour faire la vulgarisation d'idées philosophiques que j'ai écrit Sens Exalogie. Alors il se trouve que, à force de rencontres dans le monde du jeu de rôle, j'y suis resté, je m'y suis plus, et du coup je suis devenu, comme vous le voyez là, un streamer autour du jeu de rôle et du jeu de société, un podcaster autour du jeu de rôle et du jeu de société, certes, mais ce n'est pas l'origine de mon travail. L'origine de mon travail, ça reste et ça restera la philosophie, la sociologie, la réflexion autour de nos manières d'être, de nos manières de penser et de construire des mondes possibles et de construire le monde actuel. Et donc, là, évidemment, à partir du moment où on a dit ça, là, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on va parler de Pierre Lagrange et pourquoi est-ce qu'on va parler de Daniel Schneiderman ensuite. Mais avant d'avoir présenté ça, j'avoue que c'est très compliqué de suivre mon travail. Donc voilà, merci beaucoup, monsieur Rick Pogan, pour ce compliment. Le monde logique est une Excellente lecture. Tu tises un bouquin de philo, nous dit F2 Prof. Non, mon prochain jeu, mon prochain, pardon, mon prochain livre reste un, est un jeu. Hop, je m'éclipse à l'instant pour ramasser un crayon. Le Maelstrom, pardon, il est sorti tout seul. Oui, effectivement, c'est le Maelstrom est un exemple, est une exception. Et encore que c'est pas tout à fait un livre de philo, puisque quand même il s'agit beaucoup de jeux de rôle. Pareil, le Maelstrom, pour me présenter, je sais que j'ai offert le Maelstrom, quand j'ai rencontré Daniel Schneiderman pour faire son interview, je lui ai offert le Maelstrom. Pensez-vous qu'il l'ait lu? Bon, certainement pas. Et pensez-vous seulement qu'il puisse le comprendre sans avoir fait un peu de jeu de rôle? Je pense pas. Donc tout ça est très compliqué. Alors qu'en réalité, il y aurait des choses à dire, il y aurait des choses à échanger sur la position critique qui est la nôtre dans le monde du jeu de rôle, par exemple en tant que rôliste et créateur de jeux de rôle, la façon dont on critique le monde du jeu de rôle, et bien sûr la façon dont Daniel Schneiderman ou les journalistes d'Arrêt sur Image également se positionnent en tant que journaliste et critiquent le journalisme. Il y aurait des parallèles à faire. Mais quand on connaît pas, quand on n'a pas écouté les seulement 400 podcasts de la cellule qui durent chacun 3h30, eh bien évidemment, on ne peut pas suivre cette cohérence-là. Et donc, cette diversification, quelque part, elle nuit également à la découverte cette entreprise-là. Et donc de romaricbriand.fr, et donc de mes jeux, et donc de mes idées. Donc, il y a aussi ce problème de la diversification, à mon avis. Et puis, j'ai fait des jeux de rôle, j'ai fait des jeux de société, des jeux de plateau. Et donc, tout ça, c'est très compliqué. Et si vous ajoutez à ça le fait que tous mes jeux de rôle sont vraiment très différents, je veux dire, entre Sens et Donjons et Domino, entre Trip to Sky et Vademecum, je veux dire, il y a un monde entre ces jeux-là. C'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes mécaniques, c'est pas les mêmes propos. À chaque fois, ça change. Et donc, ça peut donner aussi le tournis à des gens qui débarquent et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette entreprise étrange ?» En vrai, c'est peut-être ton bouquin le plus accessible à une personne qui ne joue pas le Maelstrom, paradoxalement. Eh bien, écoute, je l'espère et... Et voilà, j'espère que ce que je dis là est compréhensible. Alors, il faut savoir aussi que moi, cette diversification, elle s'explique aussi par une chose, c'est que moi, j'ai la sensation qu'en fait, le jeu de rôle sauvera le monde. Ça, c'est absurde, putain. Dit comme ça, j'ai l'impression de me ridiculiser, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé le jeu de rôle, quand j'ai vu toutes les thèses philosophiques qui était possible de défendre à travers le jeu de rôle, quand j'ai vu le média dont il s'agissait et les possibilités énormes que nous offrait ce média, j'ai cru que ce média allait devenir mainstream, que ce média allait devenir important dans les années qui allaient venir, avec la diminution de l'énergie, avec la nécessité en fait de refaire société, de refaire monde ensemble. J'étais persuadé que le jeu de rôle, et je le suis encore d'ailleurs, serait un média d'avenir, un média politique. Et donc moi je me suis lancé dans le jeu de rôle comme une espèce de quête métaphysique, une quête philosophique vraiment, au sens fort du terme. Et en fait, je suis toujours dans cet objectif de quête-là. Et c'est pour ça aussi que je continue d'aller discuter avec des gens comme Pierre Lagrange, avec des gens comme Daniel Schneiderman, avec des historiens, avec des sociologues et compagnie, parce que j'ai encore l'intention de montrer que le jeu de rôle est un outil qui peut être utile à une certaine forme de conception du monde et des choses. Un outil politique, un média, en fait, à part entière. Donc voilà, et puis c'était l'idée aussi de la diversification, c'était de faire sortir le jeu de rôle de lui-même, qu'il cesse d'être cette caricature avec des donjons, des dragons, des elfes et des nains. Il y en a à chier de ça, j'en ai marre en fait de cette vision réductrice du jeu de rôle, j'en peux plus de donjons et dragons, j'ai déjà suffisamment critiqué l'hégémonie de donjons et dragons, ici et là, dans le podcast 3 Trolls par exemple de Gogo, on a fait une émission là-dessus. Donc en fait... Je voulais aussi sortir, j'avais aussi l'intention avec la cellule et à travers cette diversification des jeux, des thématiques, etc. J'avais aussi l'intention de sortir le jeu de rôle de lui-même, de présenter quelque chose de vraiment politique. Et donc cette diversification, elle s'explique très bien quand on comprend l'ambition, le propos de cette chaîne, de mon entreprise, de mes jeux et compagnie. Alors, hop, je vais... reprendre le contrôle de ma souris et regarder un petit peu ce que vous avez commenté. Tu oublies ma boîte magique. Genre jeu de rôle, vulgarisation des dégâts, également, immédiat, très imaginé. Oui. Un média dans le média, tu parles du JDR uniquement via podcast et maintenant via Twitch. Non, je parle du jeu de rôle en tant que tel. C'est-à-dire que l'activité qui consiste à réunir des gens autour d'une table, à faire une activité qui consiste à créer un monde ensemble, je pense que pour la politique de mon pays, c'est bien. C'est vraiment bon, en fait. C'est une activité qu'il faudrait faire plus, plutôt que de se coller sur Netflix comme des cons. Voilà, vous avez vu comme je suis en colère là. Voilà, et j'ai toujours cherché à comparer les médias. Ça, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup reproché. Si on prend par exemple, j'avais fait comme ça un podcast un peu shitstorm avec Raan, l'ancien rédacteur en chef de Gameblog.fr. Et je me souviens qu'on avait eu comme ça un débat, le jeu vidéo versus le jeu de rôle un petit peu. J'ai toujours aimé en fait comparer les médias. Me dire, mais qu'est-ce qui vaut mieux que je fasse? Parce que moi, j'aime tous les médias. Hein, j'aime la littérature, j'aime le cinéma. Enfin bon, j'aime un peu moins le cinéma ces dernières années, mais j'aime bien les séries, j'aime bien tous les médias. Et donc souvent je me dis, mais qu'est-ce que je préfère faire? Et donc du coup j'essaye de comprendre pourquoi je préfère faire ça, pourquoi un média serait plus utile qu'un autre. Et évidemment tout ça est absurde, hein, tous les médias sont utiles, vous vous en doutez. Mais c'est voilà, histoire de comparer les médias, de voir ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Donc c'est une scène activité, me dit Taeldris, je vais y arriver, hein, Taeldris. C'est une activité saine, mais qui est tout de même associée au côté geek dans un moment où il vaut mieux être à la salle pour être beau, la salle de sport, j'imagine. Oui, sans doute. Sans doute que c'est là un des problèmes du jeu de rôle, c'est qu'il est encore associé à la geek attitude. Mais je me disais justement que peut-être en invitant des gens comme Daniel Schneiderman, comme Pierre Lagrange, je me disais justement qu'on allait sortir un peu le jeu de rôle de ses poncifs geeks, quoi, de montrer qu'en fait, bah non, les rôlistes, ils en ont sous la caboche, qu'ils ont des choses à dire, que leur média a des choses à dire sur le monde et sur toutes les matières universitaires. Voilà, alors c'est peut-être mon côté bourgeois, ça. D'aller chercher une espèce de justification via la dimension universitaire ou la dimension, socialement acceptée, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, quoi. D'aller voir des gens comme Daniel Schneiderman qui ont un peu la classe dans leur milieu pour essayer de dire que le jeu de rôle, il est un peu classe. Je sais pas comment le dire autrement, je suis désolé, c'est un peu brouillon. Mais l'idée, c'était de dépoussiérer le jeu de rôle, je sais pas comment dire, de le sortir de sa cave et de le faire émerger à un plus large public. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis diversifié. Mais cette diversification, en fait, elle est compliquée à maintenir, elle est compliquée à tenir. Parce que en réalité, du coup, elle crée de la confusion. Les gens, quand ils, par exemple, ils suivent mon compte Twitter, ils savent pas ce qu'ils suivent. Ils voient un mec qui partage, un partage sur deux, c'est une émission d'arrêt sur image. Ils disent, mais attends, c'est quoi? C'est un journaliste d'arrêt sur image? J'ai mis que j'étais groupie d'arrêt sur image. Mais c'est normal, en fait. Parce que arrêt sur image, c'est le média qui fait exactement ce qu'on fait dans le jeu, au sein du jeu de rôle, mais sur le journalisme. Et surtout, arrêt sur image, c'est un média critique. C'est extrêmement intéressant. Donc, moi, c'est là que je me renseigne, c'est là, pour ainsi dire, le cœur de ma veille sur l'actualité. Voilà. C'est toi, Marc, Taeldris. Ok. Ouais, écoute, je t'appelle Marc. Hein. Je suis désolé, ça va être comme ça, parce que Taeldris, c'est trop compliqué pour moi. En tout cas, pour le dyslexique que je suis. N'oublie pas, Marc, je suis dyslexique, car des noms comme ça, ça me fait exploser le cerveau. Marc, c'est très simple. Marc, c'est très simple, voilà. Alors donc, rapide, allez, on continue. Voilà, sortir le jeu de rôle de ses caricatures. Et donc du coup diversification égale chaos et chaos égale incompréhension, et ça c'est valable aussi pour les thématiques des jeux, et ça je vous l'ai très bien dit. Et par exemple un élément, parce que j'ai un petit peu interrogé autour de moi quand même, j'ai appelé quelques éditeurs, j'ai appelé quelques personnes un peu renseignées dans le milieu, parce que je me suis demandé, est-ce que ces chiffres là catastrophiques, ils seraient pas un petit peu catastrophiques pour tout le monde finalement? Parce que je me dis, bah en fait c'est mon entreprise qui a un problème, mais si ça se trouve, si ça se trouve tous les entreprises de jeux de rôle, tous les indépendants dans le monde du jeu de rôle ont les mêmes problèmes. Et en fait, ben c'est pas si évident que ça. Certaines personnes dans le jeu de rôle s'en sortent encore plutôt bien. Mais c'est vrai que globalement, vous l'avez constaté, à cause aussi de l'inflation, bien entendu, à cause de l'inflation alimentaire et énergétique, il y a quand même moins d'argent dans le monde du jeu et du jouet d'une façon générale. Et donc, du coup, ça explique aussi la baisse des ventes. Hein. Vous avez vu qu'Hasbro a fait 2000 licenciements entre cette année et l'année dernière. C'est un signe, évidemment. Il y a beaucoup d'entreprises entreprises qui ferment, qui font faillite, c'est un signe, l'économie ralentit. Et donc, du coup, bah, évidemment, le jeu de société, le jeu de rôle passe à la trappe. J'ai une question. Tu penses avoir trop creusé ta niche de critique médiatique aux dépens de l'accessibilité, point d'interrogation. Je pense pas avoir creusé trop une niche aux dépens d'une autre, mais je pense avoir creusé trop dans des directions différentes, en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, l'incompréhension des gens. C'est ce que je disais au début, quoi. Tu viens là parce que tu penses que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui critique le livre de Daniel Schneiderman et tu te retrouves face à un tableau avec des chiffres d'affaires auxquels tu comprends rien. Et de la même manière, les gens qui vont venir ici pour écouter du jeu de rôle, s'ils arrivent à la fin de ce stream et qu'ils voient que je parle de 5 têtes coupées de Daniel Schneiderman, ils vont pas comprendre, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. C'est le fait de parler de plein de choses. Mais moi, en fait, j'ai envie de parler de plein de choses. Je suis comme ça, en fait. Et une entreprise indépendante, c'est aussi une entreprise qui se sait totalement aux mains de son auteur et de ses lubies. Et moi, ma lubie, bah, c'est la pensée critique, c'est la métaphysique, c'est la philosophie, c'est l'anthropologie, c'est la sociologie, d'abord et avant tout. Et le jeu de rôle en est évidemment une porte d'entrée, un point d'intérêt, mais il n'est pas l'alpha et l'oméga de romaricbriand.fr. Moi, je veux pouvoir sortir plus tard des romans fantastiques. Je veux pouvoir sortir plus tard des livres de philosophie, effectivement, comme vous le dites très bien dans le chat. Donc, effectivement, il faut pouvoir... Et ça, c'est très compliqué, cette diversification. Et cette diversification-là. Et j'y ajoute un dernier point, c'est que la diversification, elle se fait aussi par les thématiques abordées. Et je voulais en parler. J'ai eu des enfants récemment. Et quand j'ai appelé mes éditeurs et mes amis et mes conseillers en matière de communication, de marketing et compagnie, ils m'ont dit, en fait, il y a aussi quelque chose, c'est que les gens n'ont pas compris comment on passe de Sens à Donjon et Domino. Et depuis que j'ai eu des enfants, évidemment, mes principaux playtesteurs et playtestrices sont des enfants. Je joue avec les amis de mes enfants, je joue avec les fils et les filles des couples d'amis que nous fréquentons. Et donc du coup, forcément, les thématiques que j'aborde sont moins des problématiques d'adultes ou d'adolescents ou de lycéens ou d'universitaires comme j'étais quand j'ai écrit Sens, qu'aujourd'hui des thématiques ou des problématiques qui sont comment on met des gens très différents ensemble, des gens qui n'ont pas forcément la même culture cinématographique et littéraire que moi, etc. etc. Et Dark qui me disait quand je l'ai eu au téléphone pour parler pour la préparation de ce stream, me disait que beaucoup de youtubeurs qui ont des enfants en fait sont pour partie pas lâchés par leur communauté, mais disons que leur problématique existentielle change et que ça a tendance à perturber aussi les gens qui les suivaient avant. Donc ça peut aussi expliquer le fait que là mes jeux à l'heure actuelle sont moins en vue. De la même manière, donc un ami éditeur me disait que avant, quand on achetait romaricbriand.fr, on achetait quelque chose d'intelligent. On achetait quelque chose qui allait nous rendre plus intelligents que les autres. Sens, c'était vraiment le jeu pour se la péter, quoi. Ah, tu joues à Sens, ah ouais. Il y avait un côté très élitiste. Et donc, il disait, voilà, les gens, ils achetaient. En tout cas, c'était son impression. Je suis pas sûr que ce soit vrai, hein. Mais lui, il avait l'impression que les gens qui achetaient mes jeux, c'était des gens qui voulaient un peu voler au-dessus du nid de coucou, un petit peu briller, quoi. Un petit peu être au-dessus du truc, quoi. Et que Donjon et Domino, ça les avait déroutés, par exemple. Et Lolirock, ça les avait déroutés, quoi. Ils se disent, mais attends, avant, j'achetais des jeux de Romaric Briand, c'était un petit peu pour avoir quelque chose de plus, fourni, machin. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Alors peut-être aussi que ça a pu dérouter, hein, l'idée que effectivement je fasse des jeux différents, des machins, peut-être, je ne sais pas, ça reste à creuser. J'explore un peu toutes les pistes. Donc voilà, je pense avoir bien présenté les raisons de cette diminution. Et maintenant, on va passer au chapitre des solutions. Alors si vous avez des questions à poser sur ou des arguments à apporter ou des idées... D'ailleurs, évidemment, je suis très attentif à ce que vous mettez dans le chat. Là, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont vos intuitions aussi au sujet de cette diminution. Comment on explique des chiffres comme ça? Regardez les chiffres, revoyez-les, hein. On parle de 3241 et ça ne cesse de baisser en chiffre d'affaires trimestriel jusqu'à 674 €. C'est une baisse continue, constante, hein. Et elle avait commencé bien avant le fait que la cellule ne soit plus hebdomadaire. Donc vraiment, ça n'a pas lieu non plus, ça n'a pas de lien non plus avec une diminution, par exemple, des podcasts de la cellule. Parce que faut pas confondre la cause et l'effet. Si les podcasts de la cellule ont diminué, c'est aussi parce que j'avais moins de moyens. Donc voilà. Alors, au-delà de se la péter, sens, c'est un peu plus intellectuel que DD, oui, c'est sûr. Je pense aussi qu'il faut revenir à la com. Les chaînes qui marchent, j'ai l'impression, ont des codes précis, un peu dans l'idée d'un bonbon. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on revient sur quelque chose qui serait toujours la même chose. Néon, jolie dame, petite intro avec vidéo. Ah oui, d'accord, Marc, t'as des idées très arrêtées sur ce que c'est qu'une communication. attends, va ton prochain jeu avec les beaux guerriers torse nu. Là, ils vont être déroutés. Donc, Dasmas fait référence au Chevalier du Zodiaque. Je voulais sortir et éditer mon premier jeu en PDF, Les Chevaliers du Zodiaque, pour que vous puissiez effectivement en profiter. Mais là, c'est pareil, le jeu est en pause parce qu'il faisait partie de cette logique PDF contre Patreon. Et là, si vous ne n'achetez pas cette logique PDF contre Patreon, ma foi, je pense que je n'ai aucun intérêt à travailler sur une réédition des Chevaliers du Zodiaque. Rosargue, coucou Rosargue, bonjour, bienvenue sur ce stream. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en même temps une explosion des actual play? Alors si effectivement, c'est sûr que ça j'ai complètement raté le train en marche, c'est très difficile de faire des actual play avec mes joueurs actuels parce qu'ils sont des mineurs. Ce sont des enfants, et donc du coup on ne peut pas les montrer à l'écran. Dans le trailer par exemple de Trip to Sky que j'avais fait, vous constaterez qu'il y a les petites mains de Pandore et de Soren. Si vous êtes attentif, vous verrez sur le trailer, vous voyez des petites mains d'enfants, parce qu'on jouait vraiment Trip to Sky, on a fait la campagne entière avec Soren. Je joue avec mes enfants, donc c'est très compliqué pour moi de faire des actual play, sachant que je n'organise pas des week-ends pour faire des actual play. Effectivement, peut-être que je devrais le faire, mais vous imaginez, enfin c'est impossible. En plus, on n'a plus les moyens, hein. Vous avez vu le prix de l'énergie, ça nécessiterait de faire se déplacer des joueurs, des joueuses éventuellement assez loin. J'ai pas les joueurs et les joueuses à Saint-Malo pour faire des actual play. Je sais pas. Je pense que j'ai pas les moyens, tout simplement. Je pense que l'expérience ne m'intéresse pas non plus. Rosargue, je ne sais pas si tu débarques, mais il faut que tu saches aussi que moi, j'ai pas spécialement d'affinité avec les actual play. Je n'en regarde pas. Je trouve qu'il n'y a plus rien de plus chiant à regarder qu'une partie de jeu de rôle. Ah, je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça, surtout sur Twitch. Mais voilà, moi je trouve que c'est chiant à regarder une partie de jeu de rôle qu'il faut jouer pour comprendre le Maelstrom, qu'on ne peut pas accéder vraiment au Maelstrom de l'extérieur. Alors je sais que c'est faux, je sais que vous êtes nombreux, nombreuses maintenant à regarder des parties en ligne, et grand bien vous fasse, c'est très bien. Moi ce n'est pas le cas, et donc du coup je n'ai pas les codes. Pareil, ça nécessiterait aussi de se documenter, de faire tout un travail, tout un effort de communication. Et je vous rappelle que moi quand même, si je fais ce métier, c'est d'abord et avant tout pour créer des jeux et développer des idées. On me dit de déléguer ma com à 100%. Ça veut dire payer quelqu'un. T'as vu mon chiffre d'affaires? C'est impossible. C'est impossible. Regardez ce chiffre d'affaires. Comment voulez-vous payer quelqu'un? Ou alors il faut faire un emprunt pour payer ses premiers salaires et prendre un risque énorme. Est-ce que le jeu de rôle et surtout il faut et surtout ça veut dire cesser d'être indépendant, ça pour moi, hein, clairement. Ça veut dire cesser tous mes arguments sur l'indépendance. Donc, enfin voilà, ce serait renier complètement mon entreprise. Et ça, je pense que je veux pas. En plus, je suis complètement hermétique à la communication non authentique, non naturelle. Si ça me plaît pas, je le ferai pas. Là, tu vois, ce soir, je suis devant vous. Ça me plaît, j'aime bien, je trouve ça cool. On discute ensemble, c'est très bien. Mais payer quelqu'un à faire ma com, c'est pas mon idéal, je suis désolé, hein, c'est très chiant. Alors, donc qu'est-ce qu'on me dit? Rosargue, non, à part quand c'est Jérôme Larrey ou Coralie David qui maîtrise et que je connais pas le jeu, ça ne m'intéresse pas trop. Donc apparemment, Rosargue nous dit que l'actual play ne l'intéresse pas trop non plus. Je ne disais pas qu'il aurait fallu que tu t'y mettes, me dit Rosargue, mais que les personnes qui s'intéressaient au JDR se sont tournées vers ces opérations marketing que sont certains actual play. Je suis d'accord avec toi, Rosargue, je suis d'accord avec toi, et je note en même temps que ces actual play sont des actual play qui ressemblent énormément à Donjons et Dragons. ou en tout cas sont des actuels pays de jeu qui ont des structures similaires avec meneurs de jeu et joueurs. Et donc du coup, en fait, c'est du jeu de rôle traditionnel. Et en fait, c'est très logique parce que les gens qui font des actual play ont une logique de communication derrière. Et donc, qui dit communication dit toucher un maximum de monde. Et qui dit toucher un maximum de monde dit, bien sûr, retomber sur des formes connues et classiques et fonctionnelles. Hein. Quand on sait que sur Roll20, 65% des parties sont des parties de donjons et dragons. Et que, j'imagine, les autres pourcents sont des ersatz, en fait, de donjons et dragons. Des donjons et dragons qui ne disent pas leur nom. Donc, j'imagine, bien sûr, que si on veut faire des actual play, il faut en passer par cette forme-là classique. Et moi, c'est vraiment pas mon kiff. Je suis désolé. Alors, pour faire un emprunt, il faudra au moins 1000 kilos de CA pour être plus sérieux. C'est clair que j'ai pas les moyens de faire un emprunt. L'actual play avec des invités de marque, c'est surtout un moyen de faire de la publicité. Si lui, il joue, alors nous devrions jouer. Voilà, c'est ça, quoi. Je devrais faire un actual play avec Daniel Schneiderman, quoi. Ouais, c'est pas sûr de réussir à le convaincre, hein. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis désolé pour le pauvre Daniel Schneiderman qui me sert de. qui me sert d'exemple à chaque fois. Le pauvre. Et Daniel, il est retraité. Bah justement, il devrait avoir le temps de faire du jeu de rôle, bon Dieu. Bon, alors, on va peut-être passer au chapitre des Marc me dit qu'il ne travaille pas le week-end, qu'il peut me l'amener ma table. Ça peut te l'amener. Attends, ah oui, tu veux dire, tu vas le chercher en hélico, je suis pas sûr que ça va lui plaire. Donc, une partie avec de sens avec Mélenchon, je manque direct. Non, mais par exemple, tu vois, je pensais à inviter des gens, peut-être comme Dorian et Usul, par exemple. Ça aurait pu être marrant, par exemple. Je sais que Usul, il me suit sur Twitter. Je pense qu'il y aurait pas loin à ce qu'on puisse faire une partie avec eux, quoi. Il y avait aussi, comment il s'appelle voilà que son nom de scène, Yann Chauvière, Cœur de Vandale. Enfin, ça, Cœur de Vandale, c'est le nom que je cherchais. Qui serait peut-être motivé pour faire une partie. Je pourrais rassembler quelques youtubeurs comme ça. Mais regardez, même les youtubeurs que je vous cite. Alors, Usul reste très en vue, mais même les youtubeurs que je vous cite, ça reste des youtubeurs de ma génération. Je sais pas, Yann Chauvière, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Dorian, je sais pas s'il serait motivé. Voilà, on a tous aussi vieilli, changé. On a d'autres vies, Usul il a bien d'autres choses à faire que de jouer au jeu de rôle avec nous, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc je pense, c'est pour ça d'ailleurs que je lui avais proposé une fois, mais j'ai pas réitéré l'invitation, parce que oui, Dorian manque beaucoup internet, je suis parfaitement d'accord avec toi F2Prof, carrément. Donc voilà, donc il y aurait des solutions éventuellement, c'est vrai, mais c'est moi en fait, c'est moi qui manque de motivation. Vous allez me détester, vous allez dire, c'est lui le problème. Mais Sébastien Cellerin, vous l'avez dit, il a dit le problème. Je me souviens qu'on avait fait une émission qui s'appelait Romaric Briand est-il un problème pour le Val ou quelque chose comme ça. Romaric Briand nuit-il au Val. Ben voilà, on a un exemple typique. Là, vraiment, c'est moi en fait qui freine des deux fers pour faire cette communication dont vous me parlez. Ça ne me parle pas. Je peux pas vous dire. J'ai pas l'impression que c'est comme ça que je vais gagner le scénar, pour faire simple. Je pense que si les jeux sont bons, ils doivent s'imposer. Que si les jeux sont bons, les gens doivent vouloir y jouer, en parler. C'est pas la communication. Bon, là, et puis en fait, la communication, je suis là devant vous, il y a la cellule. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? J'ai invité des universitaires. J'ai invité des tas de gens à la cellule. Même des youtubeurs célèbres, enfin, je peux pas faire mieux en com. Je veux dire, j'essaye de. Je suis au maximum, je suis au taquet du temps que j'ai pour cette activité-là. Donc voilà. Donc je suis désolé parce qu'on parle encore de marketing dans ce truc et c'est vraiment, à mon avis, c'est pas une solution, mais bon. Je comprends que vous le pensiez, vous dites ah, s'il y avait des publicités pour sens partout, ça marcherait. Et sans doute, mais qu'est-ce que ça veut dire marcher à ce moment-là? Si les gens achètent parce qu'ils ont vu une pub pour sens et qu'ils n'y jouent pas après, ça change quoi? Bon, bref. Alors, quelles sont les solutions que j'aborde? Oh mon Dieu, je suis en retard sur mon programme, je suis carrément en retard. Alors, les solutions que je voulais aborder avec vous. Bah, tout d'abord, en fait, il va nécessairement, étant donné l'inflation, étant donné le coût des frais de port qui n'ont jamais augmenté, vous vous en doutez, il va y avoir une nette augmentation des prix de mes jeux physiques. Et donc, du coup, là, il faut vous attendre à une grosse augmentation au 1er avril 2024. Il y aura une nette augmentation de mes jeux, c'est évident. Alors, évidemment, très mauvaise nouvelle. Enfin, très mauvaise nouvelle, on va dire, pour les consommateurs, pour les lecteurs et lectrices. Mais à mon avis, c'est indispensable. C'est indispensable que j'augmente ma marge. Et il va y avoir une bonne nouvelle, par contre. Vous savez que depuis le départ, il y a quelque chose en tant qu'indépendant que j'ai trop longtemps enjambé. Cette chose, c'est la distribution en boutique. Ce que je vais faire au 1er avril 2024. J'ai beaucoup de mal à savoir que je suis en 2024. J'ai l'impression que je suis tout le monde. Bref. Ce que je vais faire au 1er avril 2024, c'est que je vais augmenter mes jeux sur ma boutique en ligne. Je vais augmenter les marges de mes jeux. Je vais augmenter les frais de port à hauteur raisonnable, mais quand même à hauteur. Et ils vont pas encore assez augmenter par rapport au prix que ça me coûte, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais augmenter tous les prix de mes jeux. Mais, les boutiques auront un accès exclusif à une page qui sera réservée à elles et sur lesquelles elles pourront acheter mes jeux à leur ancien prix. Autrement dit, celui qui achètera, je donne un exemple, celui qui achètera sans sur ma boutique le paiera un peu plus cher, 30 euros, et les frais de port, mettons. Et les boutiques, elles, auront accès à un Sens Renaissance à 25 euros sans frais de port. Et là, vous comprenez la logique. Du coup, les boutiques pourront vendre le jeu en boutique à 30 euros, donc au prix facial, si j'ose dire, de ma boutique à moi, et faire une petite marge qui leur donnera envie de vendre mes produits. Autrement dit, je repars, en fait, je vais changer de modèle, je repars sur un modèle avec distribution classique en boutique. En augmentant les prix de mes jeux sur le site, je laisse un accès à mes jeux à prix, à l'ancien prix si j'ose dire, à des librairies qui vont pouvoir les acheter sans frais de port, je précise. Et comme ça, j'assure ma marge en boutique et en même temps, j'assure une marge supplémentaire sur ma propre boutique. Je pense que de cette façon-là, je vais pouvoir me réconcilier avec toutes les boutiques avec lesquelles je me suis engueulé jusque-là, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y avait plein de boutiques qui voulaient distribuer mes jeux, et qu'à chaque fois j'étais là, mais je suis désolé, je suis parti sur un modèle économique où ça passe par Internet, et ils me disaient, mais t'es qu'un connard! Non, ils me disaient pas ça. Ils me disaient, mais t'es con, pourquoi est-ce que tu fais ça? Vous n'y arriverez pas sans les boutiques et tout. Et ces gens avaient raison! Ils avaient raison depuis le départ. Mon modèle économique était mal branlé. Et donc du coup, ça va me permettre de rattraper ce Ok, go vendre Donjons et Dominos au Japon. Alors là, si tu me fais payer les frais de port pour envoyer des Donjons et Dominos au Japon, mon gars, tu me mets sur la paille, je pense, Rosargue. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera accessible, effectivement, tu as raison de préciser. Je ne sais pas si ce sera accessible à l'international cette offre-là, mais au moins à la France métropolitaine, à la Belgique, bref, aux pays européens. Sauf la Suisse, parce qu'il y a des coûts de douane supplémentaires. Mais voilà, en tout cas. Une chose est certaine, c'est que de cette façon-là, j'espère me réconcilier avec la distribution normale et j'espère pouvoir sauver mon entreprise de la faillite cette année. Et je me donne à peu près un an et demi, 2 ans pour faire ça. Ce qui me permettra de terminer Cetra et donc de tenir mes promesses. Ce qui me permettra aussi de développer ma Final Fantasy, c'est-à-dire l'équivalent de. Vous connaissez l'histoire de Final Fantasy. Donc Final Fantasy, c'est un jeu vidéo qui a été édité par Squaresoft. Squaresoft allait faire faillite et ils décident, advienne que pourra, de lancer leur dernier jeu qui s'appelle Final Fantasy. C'était censé être leur dernier jeu, mais Final Fantasy va être un carton cosmique, le carton cosmique intersidéral que vous savez, et du coup va les sauver de la faillite. J'espère que mon prochain jeu sera ma Final Fantasy à moi, c'est-à-dire mon dernier jeu de rôle, et qu'il relancera bien entendu ma machine et qu'il sera mon Final Fantasy. C'est pour ça que jusqu'à présent, ce projet, je l'appelle Final Fantasy quand je dois en parler publiquement. Je ne dévoile pas encore son nom, mais voilà. C'est tout le mal que vous me souhaitez, vous êtes trop sympa. Merci beaucoup. Donc voilà une première solution et pas des moindres. Je pense que cette ouverture aux boutiques, cette hausse des prix va évidemment m'aider beaucoup. Et je pense que vous êtes prêts et prêtes à payer un petit peu plus cher mes jeux parce qu'en vrai ils sont vraiment pas chers du tout et je pense que c'est justifié. Étant donné l'inflation, en plus c'est juste qu'ils suivent le cours de l'inflation quoi, c'est tout. D'autre part, je voulais vous dire que du coup, attention, ça veut dire que pour vous, auditeurs, auditrices qui écoutez, si vous n'avez pas encore acheté ces jeux, je vous avais jusqu'au 1er avril pour le faire, parce que là, pour l'instant, jusqu'au 1er avril, la boutique reste avec les anciens prix. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous me soutiendrez aussi, parce que vous me permettrez, si en me donnant comme ça, donc je l'ai, en gros, c'est équivalent d'une braderie jusqu'à le 1er avril. Si vous n'avez pas certains jeux, n'hésitez pas à les acheter avant que les prix augmentent. Je vous dis ça à vous. Je sais que vous êtes ici peu nombreux sur Twitch, que vous êtes environ 200, 300 à écouter ces lives ensuite sur YouTube et à les écouter à la cellule. Je sais que on peut se faire confiance si vous êtes auditeur, auditrice régulière de la cellule. Je sais que voilà, soit vous avez déjà mes jeux, soit. Donc, je vous le dis à vous, n'hésitez pas à faire la promo jusqu'au 1er avril. Les jeux restent à prix cassé. Donc, profitez-en vite fait avant que ça n'augmente. Ça, je vous le dis pour vous, entre vous, pour les intimes. Tac. Autre chose, autre solution, et j'ai 15 minutes de retard déjà sur mon programme, c'est un scandale. Autre solution que je propose, c'est bien sûr cette chaîne Twitch pour augmenter un petit peu la communication. Et vous avez vu que cette chaîne Twitch était rediffusée sur la cellule, ce qui me permet de continuer à faire vivre le podcast de la cellule. Il y aura bien entendu, hein, bien entendu, dès que je serai revenu de ces vacances introspectives liées à ce que vous voyez là, hein, à cette chute, etc. J'ai besoin d'un peu de pause et de réfléchir à mon avenir, comme dans Star Wars. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris des vacances de la cellule, c'est parce que j'étais épuisé, que j'avais besoin de méditer ces chiffres que je me suis en train de me prendre dans la tronche. J'avais besoin de réfléchir à un nouveau plan un nouveau plan stratégique, un nouveau plan de communication, etc. Et donc, j'ai arrêté la cellule aussi pour me mettre à Twitch, j'ai arrêté la cellule aussi pour aller sur d'autres podcasts, répondre à des invitations qui me sont lancées sur des podcasts autres, comme 3 Trolls, par exemple, de Gogots, ou bien entendu d'autres podcasts que je vais faire, mais je vous dirai pour l'instant. Donc voilà. Donc en tout cas, j'avais besoin de cela. Alors, des news d'Ex Nihilo en physique. Et bien voilà, ça aussi, c'est comment dire, une des réponses, une des solutions. C'est bien entendu, vous l'avez compris, hein, le fait que Ex Nihilo sorte en physique, c'est une des réponses à ce problème de chiffre d'affaires et à finalement l'abandon de ce que je croyais être un idéal, c'est-à-dire le PDF gratuit contre des soutiens Patreon. Étant donné que ce système ne marche pas, eh bien je repars sur un modèle à l'ancienne avec du physique vendu, etc., etc. Et donc Ex Nihilo en physique, effectivement, comme le souligne Dasmasque dans le chat, c'est une des solutions que j'ai employées. Alors les jeux, je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, donc un des problèmes c'était la complexité de mes jeux. Donc là, vous voyez que si j'essaye de faire des jeux un peu plus simples, comme Le Village par exemple, il faut que vous sachiez que Le Village plaît beaucoup aux éditeurs et que j'ai déjà reçu quelques mails d'éditeurs qui proposent d'éditeurs de jeux de société et pas des gros, pas des petits, hein, des gros éditeurs de jeux de société qui me proposent là des contrats, des idées pour éditer le village en carte physique. Et donc évidemment, je vais les accepter. Et ça, c'est une grande révolution parce que jusqu'à maintenant, donc en tant qu'indépendant, j'auto-éditais mes jeux et tout ça. Vous savez que c'est ça l'indépendance. Mais donc du coup, je m'autorise à partir de maintenant. Ça fait partie des solutions pour redresser la barre. Je m'autorise à partir de maintenant à vendre certaines de mes licences, les licences qui sont pertinentes évidemment à être vendues, les licences qui intéressent évidemment certains éditeurs. Eh bien, je m'autorise à les vendre et à les distribuer de façon plus traditionnelle via des éditeurs classiques. Donc vous voyez, des petits jeux entre guillemets comme Le Village se prêtent parfaitement à ce type d'offres. Et donc en fonction évidemment bien sûr des contrats qui me sont proposés, des offres qui me sont faites, eh bien je me donne le droit maintenant de les accepter. Ce que je ne faisais pas avant, hein, alors que je peux vous dire qu'il y a eu des demandes pour mes jeux. Hein. Que ce soit pour Le Val, pour Vadémécom, pour Sens évidemment, des rééditions de Sens. J'ai eu beaucoup de potentiel, des offres qui m'ont été faites par des éditeurs de rachat en fait de mes licences, ne serait-ce que pour en faire des rééditions. Et que j'ai toujours refusé parce que indépendance et blablabla. Évidemment, 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 là maintenant, advienne que pourra, j'ai envie de dire, évidemment, dans l'idéal, je veux rester indépendant sur la plupart de mes projets, et je vais le rester, hein, ça je vous le cache pas. Mais évidemment, si jamais je vois par exemple des jeux comme Le Village, qu'on me fait des belles propositions de boîtes, de machins, des entreprises qui veulent éditer le jeu, et ben moi je l'accepte. Et pourquoi je l'accepte? Parce que un des problèmes aussi que j'ai, c'est que je commence à avoir beaucoup trop de jeux. Lollirock, Vademecum, Trip to Sky, Sens, tous les sens, Le Village, j'en oublie évidemment, Donjons et Domino, tout ça c'est énormément de jeux, Ex Nihilo, Cetra, enfin vous voyez, c'est beaucoup de jeux, donc faire le suivi de tous ces jeux, l'envoi de tous ces jeux, ça commence à devenir impossible. Donc il faut aussi, là je vais commencer à devoir déléguer ma communication, c'est ce que disait Dasmas tout à l'heure, mais aussi éventuellement la distribution de certains de mes jeux, et l'édition même de certains de mes projets. Donc du coup, il va falloir être prudent, ces live Twitch me serviront aussi à discuter avec vous de comment je garde mon indépendance, comment je lutte et tout. On verra, ça va être assez intéressant. Évidemment, je communiquerai aussi sur la façon dont tout ça va se faire. Enfin, ce sera dans la mesure du possible, parce que peut-être que des contrats me l'interdiront, mais si c'est le cas, eh bien je vous le dirai aussi. Donc voilà, on en apprendra comme ça un petit peu plus sur le monde de l'édition. C'est aussi une des raisons, hein, vous savez, que le fait que je ne sois pas édité par des éditeurs tiers, que je sois que auto-édité, c'est aussi une des raisons, à mon avis, de mon côté underground. Parce que, par exemple, des pages comme Wikipédia, par exemple, si vous prenez Wikipédia, il n'y a pas de page Romaric Briand, parce que, tout simplement, il n'y a pas d'éditeur tiers à m'avoir édité, et donc Wikipédia considère que quand je fais... je publie un jeu, quand je fais des podcasts de la cellule, quand je publie des articles et compagnie, eh bien, en fait, je fais de la promotion pour mon propre travail. Donc, comme... les gens qui font les pages Wikipédia ne peuvent pas lier mon travail à des articles objectifs non commerciaux, non publicitaires selon Wikipédia. Voilà, l'autoréférence, me dit-on, dans le chat, ne passe pas sur Wikipédia, en effet. Et donc, du coup, bah, je ne peux pas, par exemple, avoir de page Wikipédia. Donc, concrètement, quand vous voulez, par exemple, vous êtes journaliste, vous voulez en savoir plus sur le jeu de rôle, vous tapez jeu de rôle, ou vous tapez un auteur qui vous intéresse, et vous voyez la page Wikipédia, vous voyez ce qu'on raconte, etc. Si vous n'avez pas de page Wikipédia, c'est très difficile, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas universitaire. D'ailleurs, si j'étais universitaire, j'aurais sans doute le droit à une page Wikipédia. D'avoir... C'est très difficile aussi de pouvoir parler à des médias mainstream, par exemple. Donc voilà. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut que certains de mes jeux passent par des éditeurs tiers. J'essaye d'accélérer parce que je suis très en retard. J'ai 20 minutes de retard sur mon programme. Mais j'ai fini. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors oui, évidemment, ces live Twitch aussi sont intéressants dans la mesure où ils m'évitent de devoir passer pour faire des podcasts et mes émissions par des podcasts qui sont enregistrés derrière ici. Parce que vous voyez la table là, que vous voyez derrière, c'est la table concrètement où ont été enregistrés tous les podcasts de la cellule que vous avez entendu. C'est la table autour de laquelle on enregistre. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui dans l'état actuel de mes finances, vous le voyez, et dans l'état actuel du monde, tout simplement, de par le montée de l'énergie, de par le fait aussi que les gens de ma génération commencent à avoir des enfants et donc des difficultés évidemment à pouvoir faire du jeu de rôle tout un week-end sans avoir les enfants forcément avec eux, etc. Et bien, de par toutes ces difficultés, ça devient extrêmement difficile de rassembler les podcasteurs réguliers de la cellule. Donc du coup, c'est pour ça aussi que la cellule est un petit peu en pause en ce moment. Bref, Twitch me permet d'inviter de nouvelles personnes. Par exemple, quelqu'un comme Pierre Lagrange, j'aurais pas pu l'inviter aussi facilement que là, on s'est dit, tiens, on se voit cette semaine, ouais, carrément, on se fait un live Twitch, facile. Des gens, par exemple, comme Daniel Schneiderman, je veux dire, c'est vachement difficile d'aller le voir à Paris, ça coûte de l'argent. Quand j'ai été voir Daniel dans les locaux de Arrêt sur Image, ben, ça m'a coûté bonbon, quoi. Le TGV, bon, heureusement, j'ai dormi chez Yann Sully. Mais bon, voilà, ça coûte cher. Donc là, ça va me permettre de recevoir des invités. Vous allez voir, les invités que j'ai prévu de faire venir ici en live sont variés. Par exemple, ça me permet aussi de faire venir plus de femmes. Parce que c'est quelque chose que j'avais expliqué à Daniel Schneiderman, m'avait fait le reproche, il m'avait dit quand même, la cellule c'est bien, mais bon... Il y a, en gros, MeToo est passé par là, il faudrait peut-être, enfin, le féminisme, tout ça, ça vous parle pas, non? Parce que vous êtes toujours entre poils, entre mecs, ça va bien 2000. Bon, bref, Et je lui avais répondu, vous savez, c'est très difficile d'inviter des femmes en leur disant, dans les conventions concrètement, salut, tu viens chez moi enregistrer un podcast. Immédiatement, la plupart des femmes, soit ne se sentent pas légitimes, soit pensent que c'est de la drague lourde, voilà. Alors de temps en temps, j'allais en convention avec Flavie, ça permettait de dire, bah non, en fait, c'est quelqu'un, voilà, c'était Flavie du coup qui faisait les invitations aux femmes, donc ça passait mieux. Mais c'est quand même très très compliqué. Alors que là, grâce au live Twitch, eh ben je vous promets aussi qu'il va y avoir plus de femmes dans vos oreilles de la cellule. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Le Twitch va permettre, encore une fois, d'élargir aussi les voix que vous entendrez à la cellule. Allez, je reprends un peu le chat. Tu parles du village sur BGA ou d'un autre jeu? Me dit BGA. BGA, le village. Je crois. Ça. Ah non, non, d'accord, ok, vous êtes en train de vous parler entre vous. Je te citais. Alex in 1895. Salut Rome, sympa de te voir en live. Bah salut Alex. Sympa aussi de te croiser dans ces. N'hésite pas à venir poser tes questions. Ça fait toujours plaisir. J'essaie de rattraper. Pour Wikipédia, tu peux tenter l'article en utilisant. C'est pas moi qui ai écrit des articles Wikipédia, je sais pas faire. Donc c'est juste, je sais qu'il y a des gens qui adorent Wikipédia, des gens comme Guillaume Vendée par exemple qui avait essayé d'ouvrir une page. Darky aussi avait essayé une fois, ça n'avait pas marché. Je peux mettre une perruque si tu veux, me dit Marc, pour venir faire la promo de, j'imagine. BGA Board Game Arena. Ok. Ok. Voilà, éventuellement, oui, ça peut être des façons de faire de la communication là aussi. Marc avec une perruque, bien sûr. Oh, pardon, je vous ai explosé les oreilles. Excusez-moi. Désolé. Je bois un coup parce que, dis donc, c'est physique, hein.
Voilà, c'était l'audio du live. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez partager cette session sur YouTube, nous rejoindre aussi tous les premiers mardis du mois en vous abonnant à ma chaîne ou à la cellule. Tenez-vous aussi informé des lives en me suivant sur les réseaux sociaux, sur Mastodon ou sur X par exemple, ou bien tout simplement en suivant le forum romaricbriand.fr. À très bientôt.